Bon après-midi tout le monde, bienvenue sur les ondes du 94.3 Chiz, 14h03 en ce moment, vous écoutez Pop Analyse avec Zachary Trottier et Jessica Poirier-Roy. Nous allons parler aujourd'hui encore une fois de cinéma, un peu comme la semaine passée, mais sous un angle tout à fait différent, parce que Jess, on a encore un invité spécial aujourd'hui, puis je pense que c'est hâte de le présenter.
Oui, exactement. Ben, tout d'abord, bonjour Zach.
Oui.
Encore un plaisir de te retrouver aujourd'hui à Pop Analyse. Donc oui, on est en présence d'un invité quand même spécial pour nous. Donc c'est Pierre Blais qui est avec nous. C'était en fait notre professeur en cinéma au Cégep Limoilou. Donc je vais laisser Pierre se présenter, mais c'est pas seulement un prof, c'est aussi un critique de film, un ancien journaliste. Donc Pierre Blais, bonjour.
Dans le magazine du Clap aussi, entre autres. Là.
Oui, mais j'y travaille moins, par exemple, depuis l'été passé, là, mais j'y ai travaillé durant 25 ans. Le magazine du Clap, qui maintenant s'appelle Mon Ciné, qui a changé de nom depuis environ 2 ans. Vous l'avez dit, j'enseigne le cinéma, mais les communications Cégep Limoilou, c'est là qu'on s'est connus. Mm-hmm. Je pense que je vous ai donné, 2 cours de cinéma, 2 ou 3?
Oui, il y avait...
Je crois que oui.
Cinéma du Monde, qui était un cours où on voyait les films internationaux, puis Décoder cinéma, qui était réellement une introduction à l'analyse filmique.
Exactement.
Donc ça a été les deux cours. Moi, j'ai travaillé comme journaliste durant de nombreuses années comme chroniqueur culturel. Mm-hmm. Donc, j'étais appelé à parler en ondes, souvent à la radio, mais aussi à la télé, puis sur le web, de cinéma. Donc, ça a été ça durant de nombreuses années. Et je tiens à le dire, étant donné que depuis 8-9 ans, je suis davantage un enseignant, à ne pas confondre avec un homonyme qui s'appelle également Pierre Blais, pour ceux qui écoutent la radio au Québec et qui s'intonisent le 93. Donc, il y en a un autre qui porte mon nom, mais qui n'est pas dans le domaine du cinéma du tout.
Il est
dans l'émission du matin.
Du fond, oui.
Exactement. Mm-hmm.
C'est quand même
intéressant. Oui, je me souviens que tu nous le disais souvent avant nos cours, tout ça, mais...
Ben, parce que tranquillement, pas vite, il y a des gens qui m'entendent moins à la radio, j'en fais encore un peu à CKRL, mais qui peuvent se tromper. Moi, je reçois des amitiés Facebook quelquefois en pensant que des gens qui veulent se plugger en se disant, ben, ils essaient de trouver tous ceux qui travaillent dans le milieu de la radio à Québec, puis
c'est
bon.
Ça. Tu travailles aussi dans le milieu de la radio, mais c'est Pierre Blais numéro 2, là.
Non, c'est ça, exact.
Numéro 1. J'étais là avant.
Numéro 1, c'est vrai.
Non, je fais des blagues.
C'est vrai. Mais quelque chose qui nous avait marqué, moi et Zachary, de toi, Pierre, c'est que
On va nuancer nos propos pour cette première question-là.
Oui, on va essayer de nuancer, mais s'il y a quelque chose qui nous a marqué, puis c'est que... Pas que t'as une aversion, mais tu adores les films hollywoodiens comme tu les détestes. C'est ça.
Ben, j'ai grandi avec les films d'Hollywood et quand on grandit avec des films d'Hollywood, on finit tellement par bien les connaître, le système hollywoodien, que tous ces tics nous agacent puis on n'est plus capable de les supporter d'une part. Puis en même temps, on est en admiration parce que c'est ça qui a bercé mon enfance et qui a fait en sorte, de façon générale, à créer mon amour du cinéma. Parce que les films, j'en vois encore énormément. Évidemment, je les vois pas tous au cinéma, parce que la façon dont je travaille pour CKRL ou quand j'ai un texte à écrire, les textes que j'avais à écrire pour le magazine du Clap, Mon Ciné, fait en sorte que souvent on reçoit des liens à l'avance, des liens Vimeo, mais somme toute, j'en regarde à peu près 300 par année. Lorsqu'on parle de 300 films par année, je parle pas des séries que j'écoute aussi, là. Mm-hmm. On parle juste de longs métrages. C'est des nouveautés. J'ai rarement le temps de retourner dans le passé. Je l'ai fait v'là longtemps pour faire mes armes puis connaître le cinéma d'autrefois. Mais quand on voit 300 films par année, ceux qu'on voit puis qui viennent des États-Unis, qui viennent du système hollywoodien, 9 fois sur 10, pour moi, c'est de la marde. Quand il y en a un qui est bon, cependant, on est à genoux puis on crie « Hourra! » Mm-hmm. Donc, je suis encore comme un enfant qui est ébloui devant certains films, mais souvent, quand on connaît de la façon dont c'est fait, les stéréotypes et les caricatures qui se retrouvent dans les schémas du film américain, c'est pas pour rien que présentement, on dit « Y a-tu autre chose que les films de super-héros? Mm-hmm. » Oui, il y a autre chose, mais les films de super-héros, ils sont nombreux puis ils sont bâtis de la même manière. Puis ceux de DC, comparés à Marvel aussi, c'est déjà poyable.
Mm-hmm. Bon. C'est vrai que tu regardes beaucoup de films et je suis Pierre sur l'application Letterboxd, donc l'application de films où que tu peux donner des notes à des films. Et c'est vrai que ce que je vois passer, c'est pas beaucoup des films hollywoodiens. Puis quand j'écoute des films hollywoodiens puis que je veux aller mettre une note, souvent...
Tu regardes comment je l'ai coté?
Oui, je me dis, Pierre...
Je cote rarement en haut de 2. Hein? Il n'y a pas beaucoup de
haut
de 2 étoiles.
Je me dis, bon, c'est sûr que Pierre a dû le voir. Puis là, je descends puis je vois le visage à Pierre avec souvent, 2 étoiles quand c'est des films hollywoodiens. C'est vrai.
Non,
l'air d'avoir la dent dure.
On est souvent dans le même cercle. En plus, Letterboxd, fait que moi aussi, je vois les critiques, tout ça, qu'on se met en nous. Puis j'ai l'impression, Pierre, tu me diras si je me trompe, mais est-ce que ça se peut aussi que cette certaine, des fois, aversion-là par rapport au cinéma d'Hollywood, j'avais vu un article qui disait que souvent, les trames narratives de ces films-là revenaient souvent aux mêmes. J'avais vu un article qui disait que quasiment tous les films qui sortent d'Hollywood à chaque année, on pourrait résumer ça à peu près en 7-8 histoires.
Il y a une technique scénaristique. Hein? C'est toujours le même antagoniste qui fait face au protagoniste avec des twists qui arrivent à tel moment dans le film. Donc, aux États-Unis, il y a une tradition scénaristique. Hein? C'est pas le cas au Québec, notamment. Même qu'en France, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont considérés comme des auteurs qui écrivent eux-mêmes le scénario. Aux États-Unis, c'est rare que les réalisateurs scénarisent aussi. Il y a réellement une tradition de faire affaire avec des scénaristes. Et si on regarde quelques grandes productions américaines, dans le générique où il y a des centaines de noms d'ailleurs souvent, pour une méga-production, on peut retrouver quelquefois 5-6 scénaristes. Okay. Qui ont travaillé sur la même histoire. À 5-6 personnes sur une histoire, quelquefois tu te dis, ben, y en a un qui a travaillé, on n'était pas satisfait, on dit, tu vas te faire aider par un autre, l'autre vient d'embarquer, les producteurs n'aiment pas la fin, changer la fin du film, retourner des scènes, on veut pas de sexe, on en veut un peu plus.
Ça fait qu'on dirait que l'histoire devient décousue. Peut-être que ça paraît. Exact. Est-ce que c'est ça que tu essaies de dire? Ça apparaît
c'est
dans les films hollywoodiens?
Effectivement. Mm-hmm. Oui, oui. C'est entre autres ça. C'est ça ou sinon justement des recettes. Donc, okay. Puis moi, je déteste aussi toutes les conventions que le cinéma hollywoodien peut avoir. Je donne un exemple. C'est qu'on sait qu'il y a des tensions raciales aux États-Unis bien davantage qu'au Canada. Et ces tensions raciales-là font en sorte que... Et ces temps-ci, regardez, il y a des films de Noël. Moi, j'ai des amis qui trippent sur les films de Noël. Mm-hmm. Mais pas les films de Noël grand public qui sortent au cinéma. Les films de Noël cheap qui sortent sur les plateformes. En fait, c'est une sorte de plaisir coupable de regarder ces espèces de comédies romantiques qui sont tournées avec des budgets dérisoires et qu'on tourne en série. Eux, ils s'amusent à regarder ça. Ça les fait rigoler.
Est-ce que c'est un peu le genre, comme les soirées... Désolé, je prends la place pour dire les Total Crap. Un peu ce genre de soirée-là.
Peut-être pas aussi puissant que Total Crap, qui sont d'ailleurs vendredi et samedi soir à la ligne quasi, j'y serai vendredi.
Belle petite plug.
Ces films-là, essayez de voir, essayez de trouver, et chose rare, un couple qui veut se marier à Noël, qui tombe amoureux, formé d'un noir et d'une blanche.
C'est vrai.
Donc, ça, c'est vrai. D'autre part, parlons encore, de la femme dans un film hollywoodien qui se lève le matin après une nuit torride ou même la mère au foyer qui se lève le matin, son réveil sonne, elle est déjà maquillée.
Oui. Ben oui.
Souvent, elle a dormi avec son soutien-gorge.
Ben oui.
Bref, ça, on verra pas ça dans le cinéma français. Mm-hmm. Et même dans le cinéma québécois, c'est un petit peu plus rare, même si on est influencé par le cinéma hollywoodien. C'est des détails, vous me direz, mais c'est pas réaliste.
Mm-hmm. Non, c'est clair. Puis j'aime ça que tu parles de la place aussi un peu de la femme dans le cinéma hollywoodien, parce que ce matin, moi et Jessica, on parlait aussi du film Blonde qui a sorti récemment.
Oui, avec Anna de Armas.
À propos de Marilyn Monroe. Puis toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film-là?
Oui, on voulait savoir.
C'est un film qui est long, c'est un film qui est dur. Mm-hmm. C'est pas un film qui m'a apporté grand-chose lorsqu'on pense que c'est inspiré avec de la fiction, mais de la vie de Marilyn Monroe. Et c'est un film où j'ai eu de la difficulté à réellement comprendre le point de vue du cinéaste et ce qu'il tendait à nous dire. Mm-hmm. C'est l'adaptation de roman que je n'ai pas lu, de Joyce Carol Oates, si ma mémoire est bonne. Si je me souviens bien, c'était un roman de près de 1000 pages qui s'inspirait de la vie de Marilyn. Mm-hmm. Donc, c'était foisonnant. Donc, je ne peux pas comparer avec en disant « Est-ce une adaptation fidèle? » Elle est peut-être fidèle. Mais sincèrement, j'ai trouvé pénible certaines scènes du film. À la limite, on pourrait croire que c'est misogyne. Je ne peux pas croire que les réalisateurs avaient ça dans l'idée. Sauf que le résultat de tout ça, c'est qu'on voit un personnage, Marilyn Monroe, qui tout au long de sa vie... se fait bafouer par tous les hommes qu'elle rencontre.
Oui.
Producteurs, amants, maris, conjoints de passage, et d'une fille qui finalement qui est obnubilée par l'image de son père qu'elle n'a que peu connu, avec une relation malsaine avec sa mère.
Oui, c'est vrai. Puis justement, j'allais dire, me semble que j'avais lu que ça venait d'un livre. Puis même le livre, comme tu le dis, c'est pas une autobiographie, ce n'est pas une biographie. Ça s'inspire de sa vie, mais encore une fois, c'est beaucoup mélangé avec de la fiction pour faire pour faire réagir et de mettre ça en film, c'est là que ça devient beaucoup dérangeant. Et je l'ai écouté, moi, avec ma mère. Moi, j'aime ça écouter des films avec ma mère, vu qu'elle est psychologue. Puis souvent, elle fait des analyses des personnages. Puis...
Avez-vous apprécié, toutes les deux?
Moi, non.
Non.
Moi, j'ai vraiment pas aimé.
Moi non plus.
Je suis d'accord, je sais pas, mais je vais laisser Jess y aller.
Ce que ma mère, elle me disait, ma mère, le cas qu'on était en Montréal, elle a longtemps travaillé avec des bipolaires, et Marilyn Monroe, je crois qu'elle était bipolaire, si je me trompe pas. Et comment qu'ils ont essayé de portrayer ça, c'est la bipolarité, mais il la rendait dans la psychose. C'était vraiment à l'extrême, puis des relations instables, puis c'était vraiment
des
à l'extrême.
Toxiques.
Oui, exactement, mais c'était à l'extrême de tout ça, puis comme si elle avait pas d'identité, puis que c'était son personnage de Marilyn Monroe et elle-même, c'était complètement différent. C'est ça qu'elle dit tout le long du film. Et un point, tu me diras si, comment, qu'est-ce que tu penses de ça? Je sais pas si tu as vu mon commentaire que j'ai mis sur Letterboxd.
Moi, je l'ai lu.
Sinon, sur je m'en ce film-là. Plus, mais vas-y.
La seule chose que j'ai pris le temps d'écrire, c'est que moi, je trouve que c'est de la propagande pro-vie.
Ah
ce
oui.
Ce film, moi, je trouve. Moi, j'ai vraiment trouvé. J'ai dit à ma mère, j'ai dit, je suis convaincue que ce film, un, est écrit par des hommes, deux, est écrit par des hommes pro-vie.
Il faut faire attention, c'est une auteure qui est à l'origine du livre.
À l'origine,
quand
mais
même.
Comment ça a été portrayé?
Et ça se dit-tu portrayé? Tu viens de m'inventer un nouveau verbe des années 2000.
Non.
On va dire que la façon dont ça a été dépeint. Tiens,
exactement.
Oui. On va s'entendre là-dessus, mais le réalisateur, c'est un Australien. C'est. Hey, vous me prenez au dépourvu, là. Je vais pas amener de notes à rien. On est sur le flash. Je vais avoir l'air fou de pas me souvenir son nom, mais c'est celui qui avait fait le film sur Jesse James, bon copain de Brad Pitt. Puis, sincèrement, il provient pas d'un milieu de droite.
Andrew
là.
Dominic.
Merci, Andrew Dominic. Provient pas d'un milieu de droite du tout. Mm. Mais si tu penses ça, selon moi, et c'est ce que j'ai ressenti, c'est le malaise de se dire où le cinéaste veut aller. Si on arrive mal à comprendre son point de vue, ça peut être déstabilisant. Là. En tout cas, moi, j'aime bien les films qui provoquent. Films provocateurs.
On l'a senti dans tes cours.
Je les mettais en classe, en diffusant en classe. Et ce film-là, Blonde, je ne le projetterai pas en classe. Et je ne blâmerai pas pour ma mauvaise appréciation du film Ana de Armas, qui, à mon sens, est très, très bonne, ni la direction artistique. Parce que si vous avez déjà vu certaines scènes des plus grands films de Marilyn Monroe, elles sont recréées dans le film avec une minutie et une beauté. Oui. Là, c'est c'est formidable.
Oui. Comme Gentleman's Prefer Blonde.
Oui, entre autres.
Ça, j'ai vraiment été impressionnée parce que je connais ce film-là.
Comme les Français disent, c'est bluffant. Et ça me rappelait un autre film qui artistiquement était magnifique au printemps, le film sur Elvis.
Oui.
On recrée des scènes aussi avec Maestra.
Oui.
C'est vrai.
Ah non, d'ailleurs, dans le film sur Elvis aussi, que je me souviens, j'ai déjà vu des images du... le fameux comeback special, là, je vais dire, en sortie originale, en 68, et le If I Can Dream, que j'ai vu une vidéo sur YouTube où on voit les deux côte à côte, puis tu te dis, c'est la même chose.
Ça, c'est
incroyable. C'est la même chose.
Ça aussi, c'était réalisé par un Australien, d'ailleurs, drôle de hasard.
Et puis l'acteur Austin Butler,
qui il était fort.
Travail immense dans ce film-là.
Ben oui.
Oui.
Là, on a parlé un peu de certains films hollywoodiens, mais il y a quand même des films américains que tu nous montrais dans tes films.
Dans mes cours.
Dans tes cours, je veux dire, que tu avais quand même grandement apprécié.
Absolument. Il y a des réalisateurs pour qui j'ai une grande estime, oui. Mm-hmm.
Oui, est-ce que tu veux nous nommer certains de tes préférés?
L'un que vous avez connu, peut-être grâce à moi, je ne sais trop, mais c'est Darren Aronofsky.
Oui. Moi, je m'attendais que tu allais dire ça. C'est la bonne réponse.
Aronofsky n'a pas une longue filmographie. Il a réalisé quoi? 6 longs métrages? 6-7 longs métrages. Ce qui est intéressant, puisqu'on en parle, c'est qu'au mois de décembre sortira au cinéma un film qui est précédé d'une très belle réputation, et c'est The Whale, avec Brendan Fraser, qui ici est transformé. On savait qu'il avait pris du poids. On l'avait quand même vu ces dernières années. Rarement, mais à quelques reprises, un peu plus, je dirais, rondelet, disons ça comme ça. Mais dans The Whale, il joue le rôle d'un obèse morbide qui pèse quoi? 500 livres.
Qui est très,
j'ai
très
vu quelques images. Il semble-t-il que sa performance est hallucinante. Ouais. Bref, c'est un film qui est signé d'Aaron Aronofsky. Et Aronofsky fait pas toujours le même genre de film, faut le dire. Mm-hmm. Il fait des films dérangeants, oui. Mais il a quand même réalisé... dans les films, c'est lui qui avait réalisé The Fighter... Entre autres, je pense avec Mark Wahlberg et Christian Bale. Mm-hmm. Il faut vraiment pas que je me mélange.
Je suis en train de vérifier. Oui, le lutteur, effectivement.
Ouais. Non, c'était avec...
Le fighter, le coup de gaz.
Parce que le lutteur, c'est avec Mickey Rourke. Et quelquefois, je confonds les deux films.
Ben, évidemment, moi aussi.
Étonnamment.
Là, en... en
mais Aronofsky, dans ses films les plus dérangeants et les plus réussis, on lui doit notamment Requiem for a Dream, qui c'est était une adaptation de roman.
Oui.
Est-ce que je vous l'avais présenté?
Oui, on l'avait vu.
Encore une adaptation
de roman, mais c'est un film sur l'addiction.
Ouais.
L'addiction à la télévision, l'addiction aux médicaments, l'addiction aux drogues fortes, vu d'un point de vue d'une mère de famille qui est complètement mais dopée aux médicaments et qui ne fait que regarder la télévision à chaque jour, mais aussi son fils et ses amis qui, eux, trempent dans, dans les drogues dures. Mm-hmm. Et ce film qui est dur, mais qui est inoubliable parce que ce film-là, en termes de technique de montage, est hallucinant, d'une part. Sinon, réalisé ces dernières années à Montréal, Mother, avec Jennifer Lawrence, qui l'a fréquenté durant le tournage, d'ailleurs.
Oui, savais-tu que ce film a détruit leur relation? C'est ça que
ben,
Jennifer Lawrence a dit.
Elle a dit qu'elle n'est pas sortie indemne du tournage.
Ben, je comprends.
Bon,
je comprends.
Et c'est une parabole, ce film-là, totalement hallucinante et qu'on ne comprend pas au départ, qu'on regarde avec un peu de suspicion, on se dit, mais où il veut aller avec ça? Parce que son film est très intense, c'est très bien réalisé, il n'y a pas de musique dans le film. D'ailleurs, il avait fait affaire avec Johan Johansson. Il est allé voir le compositeur de musique de film qui avait réalisé plein de trames sonores, notamment, je pense, Arrival pour Denis Villeneuve. Et il est allé voir Johan Johansson, il dit, je travaille sur Mother, c'est un film atypique, il dit, est-ce que tu veux composer la musique de mon film? Je viens de le tourner. Il envoie les images et Johansson lui dit, Darren, je suis incapable de mettre de la musique sur ton film, mets-en pas. L'effet va être encore plus puissant. Donc, pas de film dans ce film-là, sauf pour la chanson du générique de fin. Et là, on se retrouve dans une maison, on est isolé avec un couple et c'est un film intrusif. On est témoin de ce couple-là qui vit une relation très particulière dans une maison à la campagne, mais il y a tout le temps des gens qui entrent dans la maison, donc des intrus, ils sont jamais capables de les mettre dehors. Premièrement parce que le mari, il adore ça, recevoir du monde, et elle, elle est complètement à l'inverse, elle se sent impuissante, elle se sent envahie par ces gens-là. Et il y a un build-up, comme on dit, c'est une gradation dans ce film-là, en intensité et en violence, sur la destruction de la maison. Et la maison, ça représente la planète Terre.
Oui.
C'est exactement ce que l'homme est en train de faire à sa planète. Il est en train de la détruire. Et pour moi, je regarde ça, je fais juste dire « Wow! » Il y a tellement de choses à analyser dans un film comme celui-là, c'est puissant. Mais c'est dérangeant. Et quand je le présente en classe, c'est encore arrivé l'an passé, on sort pas indemne de ce film-là.
Je te le garantis. Une petite anecdote. Nous, quand on avait vu ce film-là dans ton cours, par la suite, le soir même, il y avait un spectacle de Kiss qui jouait au Centre Vidéotron. Et moi et Zach, on y allait ensemble. Et moi, je me suis dit, bon, au moins, je vais aller voir un spectacle, puis ça va me changer les idées. Pierre, en plein milieu du spectacle, j'ai tout compris.
Ah, t'es revenu sur le film.
Oui,
parce que vous avez une analyse éventuellement à faire.
Oui,
c'est là que
un examen là-dessus, je me souviens très bien pour
plein
parler
milieu,
de
en plein milieu du spectacle, pendant une chanson,
l'illumination.
J'ai fait « Oh my God, le gars, c'est Jésus. Ça, c'est comme la planète, c'est les humains. Les deux gars, il y en a un qui
Adam
tue l'autre.
Adam et Ève, le
ça,
fruit défendu.
C'est Cain, Abel.
Abel, oui.
J'ai compris.
La côte d'Adam.
Je te dirais que j'étais pas contente. Je voulais relaxer. Je voulais plus penser à ton film. J'ai tout compris. J'étais pas contente.
Ben, il y a l'intérêt de se dire, hey, je viens de comprendre quelque chose. C'est là que le film, c'est là que tu dis la puissance du cinéma, aussi la puissance d'évocation.
Mais en même temps, pour toi qui aimes beaucoup analyser les films, puis nous aussi, on devait l'analyser, on a fini par comprendre, mais c'est un film dérangeant, oui. Imagine ceux qui prennent pas le temps d'analyser, qui ont peut-être pas trop compris.
J'avoue. Tu peux sortir du cinéma puis juste être en maudit.
Je peux confirmer. J'ai déjà travaillé au cinéma. Oui. Puis il y a des gens qui sortaient de la salle.
Frustrés.
Vraiment frustrés, oui.
Je peux comprendre.
Moi, je voulais pas travailler durant le temps qu'ils jouaient. Parce que là, le monde sortait, puis le monde disait « Allez pas voir ce film-là, ça a pas d'allure. » Le monde était vraiment en colère.
Mais à un certain point, même toi, Jessica, t'étais quand même très frustrée au début quand tu comprenais pas la métaphore de ce film-là. Pis...
Oui, je me disais c'est quoi qui se passe? C'est le chaos.
Tu sais, on consomme du cinéma comme on consomme de la nourriture. et on n'a pas tous les mêmes goûts. Mm-hmm. Notre façon de consommer, c'est qu'on va aimer mieux le dessert, peut-être dans certains cas, on va aimer mieux les entrées, on va vouloir mm-hmm. que ce soit accompagné d'une coupe de vin ou non. Et dans le cas du cinéma, il y a toute une frange de la population, d'une part, qui déteste les fins ouvertes. Donc, oui. qui, lorsqu'on arrive à la fin, on veut savoir si les deux héros du film, l'homme et la femme, vont s'aimer et avoir des enfants. On veut pas se dire, est-ce qu'ils vont finalement se matcher? Mm-hmm. On veut pas. On veut que ça se termine. À l'époque, Hollywood, d'ailleurs, avait une façon de finir ses films qui était très conventionnelle. Ça, c'est l'époque de ma mère. Donc, on parle des années 50, entre autres, des années 40-50. Et à la fin du film, on écrivait « The End ». Fin. Et dites-vous que quand on écrivait The End, la scène qui terminait le film juste avant, on savait tout. On savait que le héros avait gagné, on savait qu'il allait marier l'héroïne, on savait qu'elle allait avoir des enfants, et on savait que le méchant, il était mort. On n'était pas sûr qu'il allait revenir là, dans un autre épisode. C'était clair, net et précis. Il y a un sondage qui a été fait ces dernières années du côté des États-Unis concernant les bandes-annonces. Moi, quand j'étais petit, une bande-annonce, ça durait souvent moins d'une minute. Si vous allez voir les films, des anciens films, les bandes-annonces se retrouve sur YouTube, c'est pas 2 minutes 30. Aujourd'hui, c'est souvent 2 minutes 30. Et en une minute, on disait pas grand-chose. Aujourd'hui, j'ai l'impression, dans une bande-annonce hollywoodienne, qu'on nous raconte le film en entier. Et le sondage qui a été fait ces dernières années aux États-Unis, on a dit aux gens, est-ce que vous trouvez qu'on en dit trop dans les bandes-annonces ou au contraire... Et c'est très, très, très favorable. Les gens disaient, non, on veut tout savoir avant d'aller voir le film pour pas se tromper.
OK.
Pour être sûr de ce qu'on va voir, moi, ça me déstabilise. On veut pas avoir de surprise.
Non, c'est intéressant.
Bon, c'est
Est-ce
un
que
choix.
Tu crois, d'ailleurs, Pierre, que c'est un peu... Je vais essayer de peser mes mots, mais cette paresse-là un peu du public qui fait que des fois, il y a un peu moins d'intérêt pour le cinéma d'auteur, exemple, dans le grand public ou tout ça?
Ben, ça a toujours été le cas, je pense. Hein. Je vois pas ça négatif. Ben, je vois ça négativement, mais je pense pas que ce soit pire ou pire qu'avant. Ce qui se passe, et là où on peut s'interroger, c'est la façon dont on consomme les films. Ça a changé inévitablement avec l'arrivée des plateformes. Mais le fait qu'on s'intéresse moins au cinéma d'auteur, c'est normal. Le cinéma d'auteur est pas un cinéma grand public comme tel. Après ça, c'est l'inaccessibilité du cinéma d'auteur qui peut devenir pervers dans le système qui est actuellement mis en place. Parce que il faut voir que Netflix en produit du cinéma d'auteur. Hein. Netflix, je pense qu'au Québec, s'il y a une plateforme à laquelle la majorité des gens présentement sont abonnés, c'est Netflix. Il y a Disney pas trop loin. Après, il y aura quoi? Prime, Apple et tout ça. Club Illico aussi, puis l'extra de Tout TV. Mais Netflix... Ils produisent du contenu, ils en produisent énormément. Et pas juste des films d'action ou des séries grand public. Ils produisent énormément de documentaires. Ils produisent des films d'auteurs, de cinéastes réputés. Le problème, c'est qu'ils se perdent présentement dans une mare de films où il y a tellement de contenu, puis de films de Noël, puis de ci, puis de ça qui arrive que on peut perdre le fil réellement. En fait, on est submergé et à travers ça, il y a des petites perles ou des films qu'on mériterait de voir ou même des films locaux, des films québécois, ben on se dit, ben ils sont où? On sait plus trop, puis on a le tournis. Présentement, simplement, je fais un parallèle cinéma-série-télé. Au cinéma, au Québec, des films internationaux, donc américains, québécois, français, australiens, et ça, c'est bon an, mal an, qui sortent au cinéma. Il y en a à peu près 360, c'est un par jour. Mais ils sortent le vendredi. Là.
Tout en même temps.
Oui.
Des séries en Amérique du Nord, présentement, toutes plateformes confondues, il y en a 500.
Aïe.
Annuellement.
Quand
c'est
même.
Fou.
500. Moi, je peux pas vous nommer les 500 séries. Il y en a qui sont... C'est impossible de suivre. Là. Impossible.
Ça change beaucoup de l'époque de mes grands-parents me racontaient qu'il y avait juste trois postes de télé. Puis que...
aux États-Unis, c'était ça. Il y avait ABC, NBC, CBS. Fox est apparu par la suite. Mais ces canaux-là, ils sont complètement même dépassés. Ils en font des séries encore, mais ils sont dépassés par les plateformes. HBO, Netflix, Prime, il y a du contenu, puis à la tonne.
Oui, c'est ça. Puis je trouve ça intéressant quand on parlait de cinéma grand public ou d'œuvres grand public. En fait, il y a même des films qui sont devenus populaires qu'à la base, ils semblaient pas être grand public, comme Requiem for a Dream. Je me rappelle dans ton cours, tu racontais que maintenant, il y a beaucoup de monde. C'est un film assez populaire, assez connu, mais dans le temps...
Qui est devenu un peu culte.
Oui, puis dans le temps, quand tu nous avais dit quand tu étais allé le voir au cinéma, il y avait personne.
Ah, on était deux. C'était moi puis mon copain parce qu'on avait entendu parler du film. Je disais, on va voir ça. Puis chose étonnante, je pense, le clap, à ce moment-là, ne l'avait pas, ne le présentait pas. Le clap, voilà une vingtaine d'années, avait un mandat plus international, moins américain. Aujourd'hui, le clap a encore un mandat international, mm-hmm. les films d'auteur, mais il présente tout. Tout. Mm-hmm. C'est bien correct, peu importe. Mais le film était présenté chez Odéon parce que c'était un film américain, comme Mother. Mm-hmm. Mais écoute, il n'y a personne qui... Ben,
non,
les comédiens n'étaient pas très connus. Ils sont devenus connus.
Ouais.
Jennifer Connelly, Jared Leto, qui est une vedette rock, même en même temps. Mais non, c'est un vendredi soir, on était deux dans la salle.
C'est pas normal. Je te confirme.
Eh ben, on va pouvoir continuer cette discussion-là sur le cinéma international et québécois. Après la pause, on se revoit.
On est maniaque de cheese depuis 25 ans.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Cheese pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Cheese 94.3.
Le gala alternatif de la musique indépendante du Québec, c'est le 27 novembre prochain au Théâtre Plaza à Montréal. T'aimerais entendre les exclamations de joie des gagnants et gagnantes et les électrisantes performances musicales sans avoir à te déplacer? Mon ami, Cheese 94.3 est là pour toi. Syntonise nos ondes sur ton Ghetto Blaster ou sur le web le dimanche 27 novembre dès 20h. Mets-toi beau, mets-toi belle, mets-toi chicken swell. Le Gamic, c'est ton gala préféré, animé par moi-même, Émilie Rioux. À dimanche!
Vous êtes de retour sur les ondes de Chiz pour Pop Analyse. Nous sommes toujours avec Jessica Poirier-Roy et Pierre Blais, notre invité d'aujourd'hui, afin de parler de cinéma. Évidemment, Pierre, comme on a parlé d'entrée de jeu, tu nous as aussi donné un cours de cinéma du monde. Mm-hmm. Puis pour la deuxième partie de l'émission, on voulait un peu plus parler de ça, de un peu comparer le cinéma qui se fait à l'international et aussi même au Québec, qu'est-ce qui se fait ici. Mm-hmm. Puis on voulait peut-être que tu commences par nous parler, en fait, même de... Ben de tes pays préférés au niveau du cinéma en dehors des États-Unis puis de l'Amérique du Nord?
C'est le cinéma français.
Okay.
Je suis un amoureux du cinéma français. Quand j'étais jeune, ce qu'on connaissait beaucoup au Québec du cinéma français, c'était les comédies. Il y avait des super vedettes des comédies et qui étaient des vedettes au Québec également. C'était Louis de Funès et Pierre Richard, notamment. Et quand je me suis mis à découvrir dans les années 80 les drames français, le cinéma français au sens vraiment beaucoup plus large, je me suis aperçu que c'est un pays... qui encourage son cinéma, et je vais vous dire entre autres pourquoi financièrement, mais c'est un pays où autant le cinéma grand public que les films du milieu, le cinéma d'auteur, eux là-bas, un film qui rejoint autant le cinéma d'auteur que le grand public, ils appellent ça le cinéma du milieu.
Oh.
C'est une espèce d'expression
qui est comme sortie
de nulle part.
Ben
voilà. Et je me suis rendu compte qu'ils font de tout. Au Québec, on a un peu un préjugé, mais qui est en partie vrai. Il y a beaucoup de gens qui dénigrent le cinéma québécois. ils ont tendance à dire que le cinéma québécois, c'est plate. Puis quand ils aiment des films québécois, ils aiment les comédies avec Louis-José Houde. Sinon, ils vont dire que c'est toujours du cinéma déprimant.
T'aimes pas ça, les films de Louis-José Houde?
Rien contre Louis-José Houde, mais Louis-José Houde n'est pas un acteur. Quand on le voit dans un film, on voit Louis-José Houde.
Ouais, je comprends.
Mais c'est vrai que par moment, le cinéma québécois a tendance à exploiter une veine qui est misérabiliste, puis à être un peu d'anant. Puis j'ai rien contre le cinéma d'anant, mais quand c'est une tale, il y a une tale présentement, entre autres dans le cinéma québécois, où c'est toujours les frères dont leur père vient de mourir puis s'en vont à ses funérailles. Je pense qu'il y a eu trois films dans l'année où quand c'était pas les frères, c'était des sœurs. Mm-hmm. C'est la fratrie, là, puis on s'en va aux funérailles de papa. Là. Je sais pas pourquoi il y a des thèmes comme ça qui reviennent, puis c'est redondant dans le cinéma québécois. Et le cinéma français, ils en font du cinéma. Ils en font 250 par année des films. Là. C'est énorme, mais j'ai l'impression que leur palette est très large. Ils font du cinéma fantastique, ils font du cinéma d'horreur, ils font du cinéma dramatique, ils font du cinéma weirdo, du cinéma rassembleur. J'ai l'impression qu'il y a un florilège vraiment très large, et ce qui fait en sorte que moi, c'est le cinéma que j'aime le plus à cause de certains réalisateurs. Cela dit, ils ont une capacité à tourner 250 longs-métrages et quelquefois des coproductions, notamment parce que sur tout film que vous allez voir au cinéma en France, il y a une cote qui est prise sur le billet.
Oh, okay.
Donc, à titre d'exemple, je dis ça, je vulgarise, puis j'arrondis, mais un film dont le billet, le coût d'entrée va coûter, mettons, 12 euros, bien, il y aura 2 euros qui vont retourner à la production de film localement. Okay. Puis ça, je dis, juste voir, on n'a pas ça au Québec. Là. Mm-hmm. Le cinéma au Québec est financé, mais pas par rapport, justement, à l'entrée en salle. Donc, si vous allez voir un film de Marvel, il n'y a pas une cote qui revient au cinéma québécois. Il y a mm-hmm. des taxes, OK, là, mm-hmm. mais c'est pas comme la façon dont ça se fait en France. Donc ça, le cinéma québécois, je l'aime vraiment beaucoup, mais j'aime le cinéma scandinave. Les films qui sont faits en Suède ou au Danemark, je vous en avais présenté un, notamment, mm-hmm. cinéma
Land
du monde.
Of Mine. Land of Mine.
Land of Mine, c'est le titre international.
Un de mes films préférés que tu me disais.
J'avais beaucoup aimé.
Que tu nous as montré, oui, vraiment.
Sur les jeunes Allemands qui, après la défaite des nazis, sont appelés à aller déminer les plages au oui. Danemark. Un film extrêmement cruel, mm-hmm. mais attendrissant également. C'est un film où on pleure. Oui. Moi, le cinéma danois, je l'aime vraiment beaucoup. Je disais le cinéma suédois, je l'aime. Mm-hmm. Mais je suis quand même avide de ce qui se fait à l'international. Mais il y a beaucoup de pays qui produisent très peu de films dont on ne connaît pas le mm-hmm. cinéma, ou très peu. Mais la Corée du Sud, ça, c'est fort. Mm-hmm. Le Japonais. Le Japon également, j'aime bien ce qui vient de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Aussi, l'Espagne est un autre de mes pays réellement favoris. Mais il y a des pays qui ont déjà été très forts, voilà, 20, 30, 40 ans, puis qui, à mon avis, ont un cinéma qui se meurt en général. C'est entre autres l'Allemagne puis l'Italie. Mm-hmm. Les films qui sortent de ces pays-là, c'est pas ce que ça a déjà été. On n'est plus dans l'âge d'or. Ça reviendra peut-être éventuellement.
Le cinéma mm-hmm. allemand, de ces temps-ci, ça passe surtout à Canal Vie, des fois, quand il y a des reprises de vieux films.
Ça, c'est du téléfilm, moi. Oui. C'est pas terrible.
C'est vrai. Récemment, il y a eu un film qui se passe en Irlande.
Oui, que j'ai beaucoup aimé.
Les Banshees d'Inisherin.
Oui.
Qu'on est allé voir au cinéma.
Ah, vous êtes allés, les
oui,
deux.
On est allés au clap ensemble.
Voir, oui. Puis, honnêtement, ben, on peut te le dire tout de suite.
Oui.
C'était pas mauvais, mais mm-hmm. on n'a pas...
Vous n'avez pas trippé.
On n'a pas autant trippé. Puis personnellement, moi, je me suis informée. J'étais allée voir des critiques. Et toutes les critiques que j'ai vues et toutes les reviews qu'on appelle en anglais que j'ai vues sur YouTube, toutes les gens disaient que c'était une œuvre d'art.
Oui.
Tout le monde a dit
ça. C'est assez unanime.
OK.
Mais pas pour vous.
Non. Mais je voulais
pourquoi?
Savoir pourquoi.
Il n'y a pas assez d'action? Qu'est-ce qui vous a...
J'ai pas compris... J'ai juste comme pas compris le thème, on dirait.
C'est une métaphore.
Moi, par contre...
Tout le film est une métaphore.
OK, on n'a pas compris.
Vous êtes passé à côté.
Ouais, okay. On est
j'ai
vraiment dans le champ.
Une piste aussi de solution. Pourquoi? Autant au-delà de l'œuvre d'art aussi que ce film-là représente, je pense qu'il faut saluer aussi juste la cinématographie et les lieux qui ont été choisis pour tourner qui sont tout à
les
fait magnifiques.
Aussi.
C'est mm-hmm. un film qui visuellement est très plaisant. Ouais,
oui. Puis les acteurs, c'est pas la première fois qu'ils travaillaient. C'est pas la première fois qu'ils travaillaient ensemble. Ils ont une très belle chimie.
Colin Farrell, Brendan Gleeson.
C'est pas la première fois. Ils ont une très belle chimie. Tu sais, tout ça ensemble, oui, ça, j'ai aimé ça, mais c'est juste le thème du film. On dirait, j'ai pas compris le coupage de doigts.
Ça se passe au début des années 20. Mm-hmm. En Irlande, c'est très pauvre. On est sur une île et l'Irlande est une île, mais une île à côté de l'Irlande, une île irlandaise, Inisherin, qui est, je pense, inventée. Le nom est inventé. Et c'est une amitié qui est brisée parce qu'il y a deux copains de longue date qui se retrouvent tout le temps au pub parce que le pub en Irlande
c'est un lieu social hyper important.
C'est ça, c'est une tradition.
Oui. C'est
on va prendre un verre, on joue de la musique, on placote, on jase. Et là, il y a un des deux hommes, parce que c'est des hommes, un homme dans la cinquantaine, un autre dans la quarantaine. Mm-hmm. Le plus vieux, il dit, écoute, ça me tente plus de te voir, notre amitié, c'est fini. Mm-hmm. Et la seule raison, en fait, c'est qu'il dit à l'autre, il dit, je m'emmerde quand je suis avec toi, on n'a pas de conversation, ça vire à rien, t'es plate, puis j'ai envie, pour mes dernières années, de rencontrer du monde ou de parler d'autres choses que tes sujets ennuyants. C'est très cruel.
Il a dit aussi qu'il avait pris le temps de réfléchir et qu'il savait qu'il restait pas beaucoup de temps et qu'il avait envie de se focusser sur certaines choses et non ces discussions plates.
Plates, exactement.
Dont le violon.
Dont le violon.
Non, on part de quelque chose d'un peu niaiseux pour bâtir un film qui dure plus d'une heure et demie en se disant c'est la fin d'une amitié puis on va surfer durant une heure et demie sur la fin d'une amitié par un gars qui comprend pas que son ami l'aime plus.
Ouais.
Puis l'autre qui veut plus rien savoir de cet ami-là qui trouve plate. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe dans le film? c'est la guerre civile en Irlande.
C'est vrai.
On entend au loin les bombes qui tombent. Ouais. Et si on se renseigne un peu, puis hélas, il faut se renseigner après le film, parce que je connais à peu près rien de l'histoire de l'Irlande, c'est que c'est un pays qui s'entre-déchirait. Okay. Nous, ce qu'on a connu ces dernières années, c'est beaucoup... Quand il y avait la guerre en Irlande dans les années 80 et tout ça, c'était beaucoup une guerre, le catholicisme contre les protestants avec l'Irlande du Nord et le reste. Mais okay. À l'époque, c'était plus large que ça. C'était toute l'Irlande qui était en partie à feu et à sang d'un peuple qui s'entre-déchirait et qui pourtant était du même sang. Mais là, ici, c'est les deux hommes qui s'entre-déchirent.
Mm-hmm. Okay.
Et qui sont en fait ce qui se passe, mais à la grandeur du pays, mais dans un microcosme. Et okay. Ce qui illustre leur bataille intestine à eux deux, parce qu'ils n'ont pas... En fait, c'est totalement anodin, leur dispute. Mais c'est pour dire que ce qui se passait dans le pays, alors qu'on s'entretuait, c'était pour des raisons qui étaient également futiles. C'est une, en fait, c'est une, on essaie de nous faire une morale, mais pas une morale. On nous dicte pas là, mais on essaie de nous dire que ça a été un combat qui a été complètement vain puis qui a failli détruire une nation. Mm-hmm. Et on le met dans un microcosme avec deux gars qui sont plus capables de se sentir. Okay. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement attendrissant, mais les signes dans le film qui nous amène vers ça. C'est pas simplement les bombes qu'on entend au loin. Avez-vous remarqué la façon dont les terrains sont divisés? Tu sais, en Angleterre, là, le modèle anglo-saxon là, sur lequel est bâti notamment le quartier Limoilou, là, ou New York, toutes les villes, c'est des quadrilatères.
Square,
hein?
Ouais.
C'est des rues. Ouais. On passe première avenue, première rue, puis c'est droit, puis il n'y a rien qui dépasse. Puis en Angleterre, lorsqu'on voit les décors anglais, puis je ne suis pas un spécialiste, je suis jamais allé en Angleterre. Là, c'est le cinéphile qui...
Oui.
Les Anglais sont straight. Hein? C'est droit, c'est clean.
Rigoureux.
C'est, voilà. Avez-vous vu la façon dont les terrains sont divisés en Irlande avec des pierres?
Avec les pierres,
c'est
oui.
Tout
oui.
Croche. Oui. Tout est tout croche. Oui. Des lignes. Il n'y a rien de droit.
Même les rues, on les voit souvent se déplacer aussi. C'est fait un peu...
Puis tu sens que la société est tout croche aussi. Okay. Puis la relation d'amitié est tout croche. Puis le pays est tout croche. J'ai trouvé ça beau, moi.
Mais pourquoi qu'ils se coupent les doigts?
Je pense que c'est pour montrer jusqu'où on peut aller dans la gradation puis la cruauté.
OK.
Au même titre que le pays qui est en train de se défendre, dit, ben non, ils n'iront pas jusque-là. Ils vont réussir à trouver un arrangement. Le pays ne trouve pas un arrangement. Les politiciens ne trouvent pas d'arrangement. Puis là, ici, on est dans le dire, si tu continues de vouloir qu'on soit amis, de me narguer, de m'imposer ta présence, je vais me couper chacun des doigts de la main. Il y a peut-être autre chose derrière ça, j'ai pas tout compris non plus, je suis pas un génie.
Okay. Mais il y a aussi la fameuse scène, je pense qu'autant que moi et toi, Jess, ça nous a troublés. Le boucher, parce qu'il se coupe les doigts, un des deux protagonistes, et ensuite, il joue au violon, comme on dit tantôt, mais il fait juste jouer son violon, mais il le brandit dans les airs, puis il y a juste du bruit qui sort, mais c'est clairement qu'il joue plus avec ses mains, puis on se demandait...
Des fois, il fait juste taper dessus, vu qu'il n'y a plus de doigts.
Puis on se demandait, c'est quoi aussi peut-être la symbolique qu'il y avait par rapport à la musique là-dedans, puis le rôle de ce côté traditionnel-là. Encore là, peut-être plus à l'appartenance au pays, évidemment, si on parle de guerre civile.
Moi, c'est un film que je veux revoir, que j'ai compris à moitié, mais la moitié que j'ai compris, j'ai vraiment été touché. Et je me suis dit, c'est un film que je vais présenter en classe.
C'est sûr
que matière analysée. Et je me suis dit, je sais qu'il y a des étudiants et des étudiantes qui vont peut-être s'emmerder un peu. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'on nous raconte? Il se passe pas grand-chose dans ce film-là.
C'est comme un peu lent, puis c'est beaucoup des dialogues. Fait que c'est vrai qu'il peut avoir un rythme assez lent, mais
toute l'analyse avec les animaux de compagnie, avec la sœur du personnage principal, avec l'idiot du village qui est joué par Barry McHugh, qui est hallucinant et qu'on avait vu avec Colin Farrell dans un autre film pour lequel un autre film que je vénère et qui est The Killing of a Sacred Deer, avec Nicole Kidman, qui les deux avaient joué ensemble là-dedans, Colin Farrell et Barry McHugh, qui est un film qui porte à l'analyse de façon grandiose.
Oui, puis ce film-là, je me souviens parce qu'on l'avait analysé en classe évidemment ce film-là, puis tu nous avais envoyé la légende grecque dont ce film-là était inspiré, puis tu l'avais.
Iphigénie.
Iphigénie, exactement. Puis que c'est fou aussi de voir des fois à quel point certains films s'inspirent de certaines, pas
de
légendes comme ça,
de la religion.
Mais je te dirais que Killing of a Sacred Deer, c'est pas le film qui m'a le plus marqué de la côté mythologie grecque. Moi, ce que j'avais vu, c'était The Lighthouse.
Oui.
Ça, c'est de la... Puis je sais que c'est de la mythologie grecque. Ça, ça m'avait plus marqué. Oui,
et il a fallu que je fouille par la suite parce que je comprenais rien.
Moi aussi. OK, je suis pas toute seule.
Non, c'était pas évident. Mais il y avait effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de symbolique. C'est le film qui mettait en vedette Robert Pattinson et Willem Dafoe, tourné en noir et blanc.
Deux acteurs que j'adore beaucoup, en plus. C'est ça qui m'a porté à l'écouter. Finalement, je me suis dit, finalement, j'ai pas trop compris. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça.
Ben, c'est pas un film évident, là, ça. Non. C'était pas grand public, pantoute.
Non, vraiment pas. C'est
deux
genre...
gars dans un phare qui s'ostinent puis qui boivent. Là.
Oui, c'est ça. Puis qui aussi, il y avait des jokes de pète aussi.
Oui. Puis il y avait des déclamations. On se disait, mais le texte, il vient d'où, là? Mm-hmm. Il fallait que ce soit sous-titré parce qu'on ne comprenait rien. En plus, il y avait un joual, un accent assez prononcé. Mais c'est là qu'il y avait des références qui n'étaient pas évidentes. Mais moi, j'aime ça, qu'on nous fasse travailler aussi. Là. C'est pas nécessaire d'être toujours paresseux quand on va au cinéma. Puis en même temps, je comprends. Je me souviens très bien de mon beau-frère, mon défunt beau-frère, qui m'avait dit que lui, au cinéma, il dit, moi, quand je vais, il dit, mon seul but, c'est de me changer d'idée. J'ai pas envie de me creuser la tête en disant, mais qu'est-ce que le réalisateur a voulu dire? C'est pas son bag. C'est correct. Moi, je vais encore au cinéma quelquefois pour me dire, j'ai pas envie de me creuser la tête. Ouais. Puis quelquefois, j'ai envie de me creuser la tête. Il y a les deux. Il y a deux, il y a l'entrée puis il y a le dessert. Il y a deux façons d'apprécier. Oui.
C'est vrai. Mais moi aussi, je te dirais, j'ai grandi avec mon père que lui aussi, lui, c'est comme tu l'as dit, il veut pas se creuser la tête. Il va là pour relaxer. Il veut des films d'action.
OK.
Des fusils, des explosions, des
Bruce
meurtres.
Willis.
L'évasion.
Exactement. Les Expendables, les séries de films. Écoute, tout ce genre de films-là. Mais d'avoir eu ton cours, c'est vrai que j'ai développé l'intérêt, OK, d'aller fouiller un peu plus loin. Par exemple, on pense au réalisateur Jordan Peele, qui a fait Get Out. Lui aussi, il s'est rempli de symbolisme. Et c'est le genre de film qui m'a donné le goût d'aller fouiller un peu plus loin.
Ben oui. Puis dans le symbolisme, un peu plus du côté... on a parlé de la mythologie grecque et de la région tantôt aussi, mais puis là, je sais que ça a créé une grosse controverse que j'en parle. Jessica, elle tripe pas tant ce film-là, mais un des réalisateurs aussi que je sais que t'aimes bien, Pierre, Alejandro Jodorowsky.
Ah, qui est lui.
Et son chef-d'œuvre de La Montagne Sacrée.
Ça, non.
on l'avait pas vu en classe.
Mais oui, on l'a vu en classe.
On montré un extrait, puis ensuite, je l'ai regardé.
Vous l'avez montré quand même assez.
20 minutes, ça dure 2 heures.
20 minutes, c'était trop pour Jessica, déjà.
pour moi, c'est une heure.
Mais déjà, moi, je vous entends aujourd'hui, là, parce que vous êtes à l'université, puis... nous, on s'est connus au cégep il y a quelques années, mais juste de vous entendre parler de noms de réalisateurs ou de réalisatrices, pour moi... j'ai gagné mon pari. Parce que la plupart des gens qui vont au cinéma ont aucune idée, aucun intérêt de savoir qui réalise. Mmh. Et pour moi, c'est l'importance souvent de savoir qui signe un film. Mmh. Aussi important que dire, on aime un comédien, on va retourner voir un film dans lequel le même comédien joue. On aime Tom Cruise, on va retourner voir un film avec Tom Cruise. Mais si on aime un réalisateur et qu'on dit « Hey, ce genre de film-là, je l'aime, je vais aller voir son prochain film. »
Et l'inverse aussi, puis c'est vrai, cet été, Jordan Peele a sorti le film Nope, qu'on s'était parlé que...
son troisième long-métrage.
Que tu n'avais pas nécessairement porté dans ton cœur. Mais tu
j'étais
vois,
déçu.
Mon père voulait vraiment aller le voir. Il avait vu la bande-annonce, avait dit « Ah, ça a tellement l'air... » une histoire d'extraterrestre, on aime ça.
Ben, moi aussi, je t'ai attiré. La bande-annonce là,
c'est
m'intriguait.
Ça. Sauf que comme je t'ai dit... mon père aime pas ça, se casser la tête. Donc, je lui ai dit...
c'est un film casse-tête.
Je lui ai dit, le réalisateur, c'est Jordan Peele. Écoute, Get Out, puis tu verras si tu vas aller voir le film. Il l'a pas fait. Il est allé voir le film. Et je vous jure, à la fin du film, la première chose qu'il me dit, c'est... une crème glacée au Dairy Queen, ça aurait été mieux.
OK. Ouais. Ben, je suis d'accord avec lui pour une fois. Mais Get Out est plus jouissif, je pense.
Oui.
Et dans le cas de Us... pas Us... Nope. Je me mélange avec le
ou
deuxième
en,
film.
Ou en français... ben oui.
Ben non.
Ah non, c'est ben non. Excuse.
Nope, c'est oui.
Oui, c'est ça, c'est oui.
Il a ouvert des portes dans son film qui m'agaçaient, qu'il n'aurait... Tout l'aspect, le singe, c'est pour ceux qui ont vu le film, on retourne dans une émission télévision qui était culte
toujours
à l'époque avec un singe qui était un animal qui était vedette du talk show finalement, qui a pété les plombs complètement, puis ça virait en carnage. Puis on sait pas trop ce que ça vient faire nécessairement dans le film. Et tu pourrais me dire, vous pourriez me dire la même chose dans Mother, Pierre, il se passe telle chose, c'est pas trop ce que ça vient faire dans le film, mais il y avait un fil continu qui se tenait. Et là, au contraire, je trouvais que ça avait rien à voir avec ce qu'ils nous présentaient dans le ciel avec la crainte des extraterrestres. Enfin, bref.
Le singe, ce que ma théorie, encore une fois, moi, je ne suis pas un génie non plus. Pas, je n'accote pas Pierre. Mais le singe, c'est l'explication un peu parce que le souvenir vient de lui qui est celui qui a le parc d'attractions, je crois.
Mm-hmm.
C'est lui qui avait vécu dans l'émission avec
oui,
le singe.
Oui, mais on ne voit pas le lien avec mais ce qu'il est devenu
c'est
aujourd'hui.
C'est à cause de lui que plus tard, c'est lui qui attire l'extraterrestre puis que ça commence le carnage.
Ben, explique-moi quel est le lien avec le singe.
C'est que le singe, on voit qu'il a comme développé une admiration pour les prédateurs. Puis ça a été un petit peu la même chose après. C'est lui qui a présenté l'extraterrestre puis il a dit « Mesdames, messieurs, on se fait observer ». Tu sais, puis tu vois qu'il l'extraterrestre est rendu proche puis il a la même expression que le singe. Que quand le singe était proche de lui après avoir tué. C'est le seul lien que j'ai trouvé.
Bon, là,
c'est comme si ça l'explique pourquoi. C'est qu'en gros, ce personnage-là, selon mon analyse, c'est que c'est un peu les personnes qui recherchent comme à trouver l'attention du gouvernement parce que l'extraterrestre, en gros, c'est le gouvernement qui nous regarde, de ce que j'ai compris. Fait que c'est comme pour expliquer pourquoi quelqu'un voudrait attirer l'attention. C'est vraiment loin, là. Mais c'est ça que j'ai compris.
OK. OK.
C'est ça que j'avais compris dans un article. Mais encore une fois, c'est pas ça.
Si on veut revenir à Jodorowsky, je sais pas si c'est le cas,
oui,
parce qu'on peut passer
mais
à autre
oui,
chose.
Mais, oui,
mais Jodorowsky, qui est un cinéaste chilien, j'ai présenté à nouveau l'un de ses films. Je pense que je vous l'avais présenté peut-être.
Oui, La danza de la realidad.
Voilà, la danse de la réalité. Oui. Je l'ai représenté l'an passé aux étudiants. Et je soulignais, parce qu'évidemment, c'est très déstabilisant parce qu'il y a du réalisme magique. Donc, il y a des scènes qui sont surréalistes, littéralement, mais qui sont reliées vraiment à un courant sud-américain littéraire, le réalisme magique, où tu dis, ben non, ça se peut pas, où il y a des choses qui prennent vie, il y a du fantastique réellement. Mais dans son film, il y a de la nudité. Jodorowsky aime ça, montrer des corps nus. On pourrait le blâmer puis dire qu'il y a un côté voyeur dans ce qu'il nous présente dans ses films. Mais je disais aux étudiants, avez-vous remarqué à quel point c'est rare aujourd'hui, et Jodorowsky se permet cette liberté-là. Il a tourné ce film-là, je pense qu'il avait 85 ans. Là.
OK.
Il fait une apparition, d'ailleurs, dans ce film-là.
Absolument.
Oui.
Tout à fait. Mm-hmm. Comme narrateur.
Oui.
Et on le voit à la fin aussi, je crois.
Oui. Mm-hmm. Et il nous montre des corps nus, mais de gens qui n'ont pas des corps hollywoodiens, avec une belle blonde au sein de plomb, ou n'importe quoi. Et j'ai dit à mes étudiants, avez-vous remarqué qui nous montre la nudité, mais comme on la voit au quotidien, avec des corps comme vous pouvez en rencontrer, comme ça peut être les vôtres, comme ça peut être ceux de vos parents, sans filtre. Et ça, cette liberté-là de nous présenter la nudité de cette façon, c'est encore trop rare au cinéma. Vraiment, vraiment, vraiment rare. Dans le film, notamment, il y a le personnage de la mère qui, dès qu'elle s'adresse, dès qu'elle parle, elle chante de l'opéra parce que sa mère tripait sur l'opéra.
Oui.
Et souvent, on va la voir à quelques reprises, être nue à l'écran. Et ça, on n'est pas habitué à ça. Puis on se voit, on dit, mais la femme, elle est quand même assez lourde. Puis sans pudeur, elle devient extrêmement belle, justement, parce qu'on sent qu'elle est à l'aise avec son corps.
Oui, par sa présence, tout.
Il y a une scène absolument fantastique, mais où les gens, quand je présente le film, il y a toujours des... C'est au moment où son mari attrape la peste. Et là, elle le guérit en lui urinant dessus.
Oui, c'est vrai. Ah.
Et ça, c'est très choquant. On n'est pas habitué de voir ça.
Et moi, mon anecdote,
ce genre de purification-là par
l'urine. Je me rappelle que tu m'avais déjà dit que tu le savais quand cette scène-là allait jouer. Puis tu nous
regardes tes élèves. Je regarde plus l'écran, mais je me retourne et je veux entendre les réactions.
C'est vrai.
Puis là, j'entends, « Oh non, non, elle ira pas jusque-là. Non, oh non, elle l'a fait! »
Mais moi, je pense que mon anecdote la plus marquante par rapport à ce film-là, je m'en souviens encore de la projection quand ça a eu lieu dans notre cours. Puis, il y a aussi une autre scène quand même assez poignante. On voit Jodorowsky jeune, évidemment, interprété par un acteur, avec d'autres de ses collègues de classe. Et encore, ce par là, on parle du corps humain de manière très sans pudeur dans ce film-là. Puis, on voit Mané qui... Les garçons sont tous avec des bâtons de bois.
En fait, c'est une séance de masturbation collective.
Oui, et voilà.
Et c'est des enfants qui ont quoi? 10 ans, 11 ans?
Environ, oui.
Séance de masturbation collective, ils sont sur le bord de la plage, les jeunes, ils se mettent à se masturber. Oui. Dans un film, et là c'est le réalisme magique qui embarque, on mettra pas des ça donne rien de montrer les pénis de jeunes garçons de 10 11 ans, on pourrait se faire accuser de voyeurisme, de pédophilie. Mmh. Ben, voilà. Pédophilie, c'est un peu exagéré là, mais plutôt on va l'évoquer. Mmh. Et chacun des garçons comme pénis avait un bout de bois.
Oui.
Et pour montrer l'antisémitisme qui régnait à l'époque dans le village où d'où venait Jodorowsky, qui était d'origine juive ukrainienne, ils se sont mis à rire du bâton qui faisait forme, en forme de pénis, du jeune Alejandro, en disant hey, « Regardez! » Il n'est pas circoncis, en fait, ça.
Oui.
Encore là, moi, je trouvais que c'est une très belle scène.
Et c'était incroyable parce qu'à ce moment-là, on salue, il y avait un de nos collègues de classe de l'époque.
Qui revenait des
qui
toilettes.
Qui revenait à ce moment-là, précisément. Florent.
Il est rentré dans la gaz. Qu'est-ce qui se passe? Séance de masturbation collective avec des bouts de bois.
Tu fais le saut.
Moi, j'aime son audace à Jodorowsky. Un octogénaire puis je pense qu'il est rendu dans les 90 ans, mais ses films sont pas tous bons, mais ils sont audacieux, puis moi, j'en aime plusieurs.
Bon. Sinon, il y a d'autres films internationaux qu'on avait vu dans ton cours que j'avais aimé, c'était des films qui venaient de l'Inde.
Ah, on avait vu un film où moi je braillais, là. Je suis sensible quand même.
Pas mal, beaucoup
quand
de
gens.
L'ensemble de la gorge, quoi. Oui,
mais Lyon, qui est un film australien, une coproduction. Mm-hmm. Mais toute la partie qui se passe en Inde, parce que la moitié du film se passe en Australie, l'autre moitié en Inde, il s'est tiré d'une histoire vraie. Et Lyon, c'est la partie qui se passe en Inde, les images sont exceptionnelles. On voit le bassin de population. Mm-hmm. On voit, moi, j'ai vraiment appris aussi à quel point d'une région à l'autre en Inde, il y a une barrière linguistique. Il y a beaucoup de dialectes, de langues en Inde. C'est pas un pays uniforme. Et lorsqu'on parle d'une langue en Inde, souvent, ça va être parlé par 60 millions de personnes. Dans la province à côté, il y a 40 millions qui parlent une autre langue puis ils se comprennent pas entre eux.
Oui.
Ça, j'ai eu un choc culturel en regardant le film. Je suis jamais allé en Inde. Je disais, OK, c'est vraiment un pays qui se comprend pas d'une province à l'autre.
C'est vrai, on voit le petit gars qui se perd de sa région puis rendu dans sa nouvelle région, il est pas capable de se faire comprendre.
Personne ne comprend, ou à peu près. Mm-hmm. Effectivement. Puis ça, c'était un beau film, Lyon, à mon sens. Ouais.
Ça roule.
Oh mon Dieu, oui. Oh. Oh mon Dieu, on avait des amis qui avaient déjà vu le film et après 10 secondes, ils se mettaient déjà à pleurer parce que quand on a vu le grand frère, ils se mettaient déjà à pleurer.
Et d'ailleurs, on parlait de cette production-là indienne, mais d'ailleurs, l'acteur principal dans Lyon est, si je me souviens bien, le même acteur que lui dans Slumdog Millionaire.
Effectivement, oui, qui est d'origine indienne. Mais on parle de film de l'Inde parce que ce film-là est une coproduction, mais en fait, il y avait un gros côté occidental dans la production de ce film parce que l'Inde a son propre cinéma, le cinéma de Bollywood, comme on l'appelle. C'est le cinéma qui est produit à Bombay, Mumbai, d'où le B pour Bollywood. Mais je ne sais pas si vous avez... Parce que c'est des films qui s'autosuffisent, je dirais. Le cinéma de l'Inde n'a pas besoin d'un marché international comme les États-Unis, on veut exporter. C'est pas un cinéma qui s'exporte beaucoup, sauf dans la communauté, la diaspora indienne à travers le monde. Et c'est un cinéma qui est vu et qui est rentable à l'intérieur de l'Inde, avec des comédies musicales souvent, des films romantiques, des films d'action qui durent souvent, la norme en Inde, des films de 2h30, 3h. Moi, je vous relance Netflix. Après son passage en salle dans quelques pays, a acheté les droits au printemps passé d'un film indien qui s'appelle RRR. La lettre R, trois fois de suite. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Mais j'ai vu passer une bande-annonce sur Netflix d'un... C'est un film de Bollywood. Est-ce que c'est un gars qui court dans la forêt avec un tigre?
Okay. Effectivement.
C'est ça, j'ai vu passer.
Et ce film-là, RRR, se passe qu'au début du 20e siècle, alors que l'Angleterre colonisait encore sous son joug l'Inde. Et c'est l'histoire de deux hommes qui, au départ, sont ennemis sans le savoir, qui vont se lier d'amitié, puis qui, sous le couvert de l'anonymat, il y en a un qui est un peu un espion à la solde des Britanniques, mais qui est un Indien lui aussi, ils vont finir par mener le même combat. Faut que vous regardiez ça.
Okay.
C'est une spéciale, définitivement.
L'action, la romance, les chorégraphies, les chansons, c'est un trop-plein, c'est un buffet à ciel ouvert. On mange de tout, on se gave et on a du plaisir.
J'ai une petite question en terminant. On a parlé de Netflix et en même temps, on a parlé de cinéma international. Là, c'est plus par rapport à une série, mais qui est faite en Allemagne. Est-ce que tu as vu Dark?
J'ai regardé les deux premières saisons, j'ai jeté un œil rapide à la troisième, mais hélas, mon quotient intellectuel m'empêche de tout comprendre de cette série okay. allemande, Dark.
OK, parce que oui, c'est une série qui demande beaucoup, beaucoup de concentration. Il y a des liens tout le long et ça paraît que les créateurs ont prévu les trois saisons depuis le début.
Les créateurs qui viennent de lancer sur Netflix depuis une semaine.
1899. Voilà. Oui, exactement. Est-ce que tu l'as vu?
Oui.
Moi aussi.
OK. Mais ça commence au cinquième épisode.
Oui.
Est-ce que tu es d'accord avec moi? On ne divulgage
oui.
rien.
Non,
mais
on divulgage rien.
Non, ben je
ne
l'ai
épisode.
Pas vu encore, fait que j'aimerais ça.
Non, c'est ça.
Zach, il y a 8 oui. épisodes oui. et c'est au cinquième qu'on commence à comprendre ce qui est en train de se passer.
Oui, c'est vrai. Et moi, la seule chose, parce que les gens me disent ça vaut-tu la peine que je regarde? Moi, premièrement, moi, je dis que c'est moins bon que Dark. Et la seule chose, par contre, c'est que moi et mon copain étaient d'accord, on dirait que rendu à la fin, les premiers épisodes, ils servaient à rien.
C'est le problème de nombreuses séries. On fait 8 épisodes qui auraient pu être condensés en 4.
Oui, c'est vrai.
Eh bien, faire court, je pense que ça va être la leçon qu'on va tirer de la fin de cet épisode. Pierre Blais, merci d'être venu nous visiter en studio.
C'est un plaisir
soir.
De vous retrouver.
Écoutez, vous pouvez suivre nos pages, évidemment, Instagram, Facebook. Continuez de nous suivre. On va avoir un autre épisode qui s'en vient bientôt.
Oui.
Puis vous pouvez évidemment ça aller écouter en rediffusion sur le shiz.ca, effectivement. Eh bien, on vous souhaite là-dessus une bonne semaine et puis on se revoit pour un prochain épisode de Pop Analyse.
Vous écoutez Shiz 94.3 FM à Québec.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Shiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Le temps d'un gin, c'est le moment parfait pour décompresser avant le week-end. Les vendredis de 14h à 15h, joins-toi à Rosalie et ses invités pour un moment de détente. Des invités dynamiques, des discussions stimulantes, des ginto et ben du fun. Voici ce qu'on te promet pendant une heure à toutes les semaines. Le temps d'un ginto, tu veux pas manquer ça.
Ici Gala Dionne pour Pomme Magazine, une émission culturelle complémentaire au magazine papier de Pomme. Dans cette émission, j'aborde les nouveautés culturelles, plus particulièrement celles de la ville de Québec. Attendez-vous à beaucoup de musique émergente, des entrevues, des chroniques et des réflexions sur les principaux enjeux culturels. Votre rendez-vous culturel, c'est à tous les mercredis sur les ondes de Shiz 94.3 de 14h à 15h.
100% sport, 100% passion. Chaque mardi, Boisvert Radio vous éclairera sur les actualités sportives à la une des journaux, du niveau local jusqu'à l'international. De plus, l'émission accueillera des invités de marque qui viendront partager leurs histoires et leurs anecdotes. Donc rendez-vous tous les mardis de 21h à 22h sur les ondes de Shiz 94.3.
pied. Tu deviens quoi, le minotaure? J'ai peur de te voir dans le noir. Tu hantes les corridors de ma mémoire, perchée toute seule sur mon rocher. J'ai peur pour moi, personne ne me croit, mais je me languis de tes cris. Je t'imagine revenir la nuit, tu me blesses, je reviens à la vie. Le fil est coupé maintenant, je reste dans le dédale obstinément. Veux-tu bien? J'ai peur de perdre ton image en sauvant mon reflet. J'existe seulement quand tu me cours après. Je suis ta proie, je suis à toi. C'est le grand rôle de notre vie. Le labyrinthe est bombardé. Le mythe opère. Le monstre prisonnier.